Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Café que nous enregistrons le 11 juin 2019. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour vous dérouler toutes les news tech qui sont importantes, qu'il ne faut pas rater, tout ce qui a pu se passer ces derniers jours et puis surtout vous dire ce qu'on en pense. Je suis accompagné pour ce nouvel épisode de Pierre-Olivier Deepman. Salut Pierre-Olivier.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Toi aussi en forme pour ce Tech Café?
Toujours.
Donc Pierre-Olivier qui a un pied activement posé dans l'univers du développement et aussi un autre pied posé depuis longtemps dans l'entrepreneuriat et notamment dans les médias et qui est derrière notamment Frandroid et la société qui est derrière Frandroid, Humanoid. Et ça tombe bien que tu sois là parce que on n'a pas eu l'occasion encore d'échanger ensemble sur une affaire qui défraye la chronique depuis quelques semaines sur laquelle on va revenir. C'est bien évidemment l'affaire qui concerne Huawei qui est un petit peu l'élément central qui concentre la guerre que mène Donald Trump à l'égard de certaines entreprises chinoises et peut-être même à travers ça à destination de la Chine, comme on en a déjà parlé, mais on va en reparler ensemble. On a une autre rubrique qui concerne plein de petites news qui concernent directement Google qui vit des difficultés fortes autour de la modération au travers de YouTube qui est amené à combattre Aptoid qui est un store alternatif d'applications. Il y a aussi des choses qui se passent sur le plan légal aux États-Unis et puis un malware qui était préinstallé en 2017 dont on va reparler brièvement. Il y a aussi eu, ça fera le lien un petit peu entre les deux rubriques, une news que tu as notée dans les notes d'émission, 2 heures de trafic mobile que vous aviez, qui a pu passer en Chine, on va en reparler ensemble. Avant qu'on attaque justement toutes ces news, les incontournables, c'est de vous rendre dans le groupe Telegram de Tech Café si vous souhaitez échanger entre vous et avec nous, et notamment avec Pierre-Olivier qui est la figure de proue de l'animation du groupe Telegram, mais vous pouvez aussi échanger avec moi, avec Guillaume Poggiaspala, avec bien sûr tous les autres auditeurs. Et puis vous pouvez également réagir et retrouver toutes les infos qui concernent le podcast sur techcafé.fr, là où vous pouvez également déposer des commentaires qui nous permettent d'avoir un peu vos retours sur l'émission. Si jamais on dit des bêtises, vous n'hésitez pas à nous y corriger, et si jamais vous avez apprécié ou que vous avez envie de compléter les news qu'on vous relaie, bah surtout vous pouvez le faire là aussi en commentaire. Et puis c'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler que Tech Café est disponible en financement participatif avec la plateforme Patreon. Vous êtes plusieurs, vous êtes plus d'une centaine maintenant à soutenir Tech Café au travers de Patreon. Vous soutenez le podcast, vous soutenez le temps qui est passé derrière. Merci beaucoup. Continuez, plus vous serez nombreux à soutenir le podcast, plus on pourra faire rayonner ce que vous mettez en jeu pour nous, pour le podcast, pour en faire bénéficier le plus de monde possible. Sans autre forme de procès, on attaque donc avec cette première rubrique qui va être tout à la fois un follow-up un peu, hein, le suivi des dernières news qui concernent tout ce qui touche de près ou de loin à Huawei, mais ça va être aussi l'occasion pour toi Pierre-Olivier de t'exprimer au sens large sur ce sujet, que ce soit en lien avec les dernières news ou même sur l'affaire depuis qu'elle a commencé. Alors les dernières petites news qu'on peut soulever, c'est... les conséquences directes donc de ce ban, de l'interdiction de travailler pour les sociétés américaines avec certaines entreprises chinoises qui touchent WhatsApp, Facebook et Instagram, qui ne pourront plus être installées par défaut sur les appareils de Huawei. Nouveau coup dur, même si je pense qu'on est quand même bien loin de éléments centraux qui pouvaient toucher les services et l'écosystème que propose Huawei, parce que quand on empêche une entreprise chinoise comme celle-ci d'utiliser Android, c'est autrement plus embêtant que de l'empêcher d'installer par défaut des applications. Surtout que rien n'empêchera d'installer, a priori, ces applications par la suite. Donc on est surtout sur une évolution un petit peu et des news qui concernent des détails, mais qui sont quand même intéressants d'être relevés. Et puis deux autres petits sujets qui touchent à l'actualité récente autour de Huawei avant qu'on aborde les choses qui sont un petit peu plus marquantes. Le fait que la Russie, de son côté, a signé pour la 5G avec Huawei, notamment avec un gros accord. Alors, il n'y a pas que le déploiement de la 5G qui est concerné, puisque c'est une espèce de sommet économique entre la Chine et la Russie. Mais évidemment, je pense que Vladimir Poutine en profite pour montrer ce qui le sépare de l'environnement américain, pour lui dire « on signe en connaissance de cause avec Huawei pour le développement de la 5G ». Et puis aussi, les manœuvres dont on aurait pu constater l'avancement de la part de la Chine, qui serait en relation directe avec des entreprises, alors soit américaines, soit alliées des États-Unis, notamment on parle de Dell, de Microsoft, mais aussi de Samsung, qui est sud-coréen, mais qui est évidemment très en affinité avec l'orientation des États-Unis, et qui ferait d'une certaine manière un petit peu pression sur ces entreprises pour ne pas suivre la directive du gouvernement américain et continuer à pouvoir travailler avec Huawei. Alors, bon, Pierre-Olivier, hein, la question, elle est relativement simple. C'est déjà, qu'est-ce que tu perçois, toi, en termes d'analyse de cette affaire depuis le début? Et puis, qu'est-ce que ça t'évoque, ces dernières news?
Il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, le premier truc que je tiens à dire, c'est que, et je suis tombé moi-même dans le panneau, on est tenté d'analyser le bien fondé de cette interdiction, tout simplement parce que c'est ce que en êtres humains rationnels, on fait à l'habitude. Si on nous dit que Huawei est accusé d'espionnage, on va regarder est-ce que c'est vraiment des espions. Et le truc que je tiens à dire, c'est qu'il ne s'agit pas de ça. Alors, je suis pas en train de dire que Huawei ne se livre pas à l'espionnage. Je suis pas en train de dire qu'il se livre à l'espionnage. Je suis en train de dire que ça n'a aucun rapport avec les enjeux actuels. Trump ne s'en cache presque plus. On est totalement dans une guerre commerciale. Ce qu'il veut, c'est récupérer des emplois pour les États-Unis. Et il se sert de l'angle de sécurité, puisque c'est ce qui lui permet de passer outre les règlements et législations de l'OMC, dont les États-Unis sont évidemment membres. Il a déjà évoqué par le passé, menacé des pays comme le Canada d'invoquer des règles de sécurité pour établir des barrières douanières, notamment sur l'importation d'acier, parce que chercher le rapport, il y en a pas. Hein. Autant dans le cadre de Huawei, c'est quelque chose de crédible qu'on peut imaginer, qu'on peut se matérialiser. Bon, voilà, il y a des échanges électroniques qui seraient détournés vers la Chine. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Autant pour l'acier, on voit pas très très bien quel est l'enjeu de sécurité là-dessus. Mais voilà, c'est exactement le même genre de choses. Et donc on est vraiment là-dessus. Et la discussion de savoir si Huawei se livre ou non à de l'espionnage, elle est quelque part complètement hors sujet parce que c'est pas du tout l'enjeu de Trump aujourd'hui. Et ça veut pas dire que c'est pas une question légitime par ailleurs, et elle a déjà été soulevée il y a bien longtemps et plusieurs fois et par différents pays.
Ouais, un autre des trucs, c'est oui, de dire que du coup, l'administration Bush a brandi le spectre d'armes de destruction massive en Irak pour intervenir, ce qui était peut-être en partie le cas et historiquement a été l'objet de développement par l'Irak, mais a été utilisé vraiment comme prétexte pour une intervention. Là, d'une certaine manière, on est en 2019. Pour toi, c'est un petit peu cette histoire de d'espionnage chinois. C'est un peu l'arme de destruction massive de l'Irak. C'est-à-dire qu'il y en a eu, il peut y en avoir encore. C'est encore un problème, mais c'est pas forcément ça
tout à fait
qui justifie les interventions qu'on peut avoir derrière, quoi.
Oui, effectivement, je pense que c'est une belle analogie.
Alors, tu voulais réagir aussi sur un second point, sur cette affaire ou sur les dernières news?
Le second point, c'est que la façon dont les entreprises réagissent, il y a une certaine, pas marge de liberté, je dirais, mais marge d'interprétation légale entre ce qu'elles ont le droit de faire ou de ne pas faire. On a trois cas assez différents. Il y a donc la fameuse licence GMS, le Google Mobile Services, de la société Alphabet. Donc là-dessus, Alphabet a décidé de ne plus octroyer cette licence, mais les modèles qui disposent déjà de cette licence continuent d'être fabriqués, d'être vendus et d'être maintenus, y compris aux États-Unis. Et aux États-Unis où Huawei n'est pas présente directement, on pense notamment à la marque Honor qui, elle, est présente. On a ARM, qui est une entreprise qui n'est pas américaine, mais qui fournit des licences qui sont basées sur quelques pourcents de propriété intellectuelle qui viennent des États-Unis. L'essentiel, ce sont des brevets et de la propriété intellectuelle qui vient d'Europe et plus précisément d'Union européenne. Mais il y a quand même quelques brevets concernés qui sont américains et qui, donc, interprète la mise sur liste de liste noire de sécurité par les États-Unis. L'interprétation que ARM fait, c'est que eux, ils, s'ils veulent continuer à faire des affaires avec les États-Unis, ils sont obligés d'appliquer la même clause, et donc ça rend cette loi extraterritoriale. Et on a une autre interprétation qui est plus récente et qui est l'article dont tu voulais parler, qui est la cessation immédiate de l'installation par défaut des applications du groupe Facebook, donc WhatsApp, Facebook et Instagram.
Mais
et donc
gratis,
là, contrairement... oui, effectivement, il n'est pas cité dans l'article qu'on utilise comme source, mais il est probablement... si d'ailleurs, dans le dernier paragraphe, il est effectivement... Il est effectivement cité. Et donc, cette décision, là, pour le coup, elle est immédiate. Il manque un quatrième cas qui serait une entreprise qui juge que non seulement la décision doit être immédiate, mais doit aussi faire foi dans le passé et donc désinstaller les apps. Là, il manque encore ce quatrième cas, mais c'est quand même intéressant de voir que placer une compagnie dans une liste noire de sécurité, c'est pas une loi, c'est pas un décret, c'est quelque chose de flou et qui sera donc sujet à un certain nombre d'interprétations et probablement des batailles juridiques.
Et ce qui est assez nouveau, si je dis pas de bêtises, parce que je crois pas avoir eu connaissance. Alors, en tout cas, dans l'univers de la tech, de tels mouvements, mais je me trompe peut-être, je sais pas si toi t'en as connaissance, mais surtout, je voulais revenir aussi sur cet enjeu d'installation par défaut. Est-ce que justement, on n'est pas un petit peu en train de s'éloigner du sujet, encore plus de manière flagrante du sujet de départ? Est-ce que c'est pas un aveu de plus que le sujet dépasse complètement ses enjeux de sécurité? On est vraiment là pour quelque part embêter sur les capacités d'exportation d'un produit qu'ils construisent à destination d'un marché hors Chine, parce que objectivement, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'enjeux pour le marché chinois à commercialiser des smartphones avec ces applications préinstallées. Est-ce que la portée elle est importante? Moi ça me paraît assez ridicule, mais c'est un symptôme de plus quoi.
De toute façon, c'est certain que cette mise sur liste noire de sécurité, elle ne combat absolument pas les allégations d'espionnage qui concernent la partie équipementier réseau. Là, on est directement sur le marché du consommateur. Hein, c'est lui qui est le plus touché, puisque le déploiement de la 5G n'a pas commencé. Le déploiement de la 4G, il est fait avéré. Et Huawei est déjà le leader. Et on n'est pas en train de désinstaller les infrastructures réseau de marque Huawei aux États-Unis ou ailleurs, il n'en est pas question. Et pour le moment, aucun des opérateurs américains n'a signé de contrat ou quoi que ce soit. Donc vraiment, cette mise en liste noire, elle concerne les téléphones qui, dans la pratique, hein, qui pour le coup ne sont pas du tout soupçonnés de quoi que ce soit.
Moi, j'aime bien assimiler ça dans mon esprit à un embargo parce que je trouve qu'il y a vraiment des parallèles à y faire, que ce soit en termes de blocage et en termes de conséquences dans les actions. Il y a quelque chose d'assez similaire, même si évidemment, ça n'a pas la nature officielle d'un embargo, bien entendu. Alors, l'autre point d'étape sur cette affaire, qui, à mon avis, n'est évidemment pas prêt de s'arrêter, on va encore en parler semaine après semaine, c'est Google qui a commencé aussi à prendre la parole. Parce que on l'avait déjà dit dans les précédents épisodes de Tech Café, mais évidemment Google, ça ne l'arrange pas trop cette histoire. Il y a tout intérêt à ce que les choses continuent à bien se passer, à ce que Huawei puisse continuer à déployer la version de Google d'Android sur ses appareils. Et en gros, il y a vraiment du gagnant-gagnant à ce que tout se passe bien. Et ce blocage embête un petit peu les deux, et notamment Google qui avance. Alors là, j'aimerais savoir si tu souscris à cet argument ou si tu penses que là aussi, Google utilise des artifices de communication pour essayer de convaincre les parties qui l'intéresse, c'est l'argument qui vise à dire que on y perdrait sur le plan de la sécurité à trop fragmenter Android et donc notamment à continuer à proposer un Android de Google partout où on peut le faire et à laisser se propager un Android alternatif de la part de Huawei et de part des autres entreprises chinoises qui pourraient être concernées et notamment par le fait que Google ne peut pas, qu'on ne peut plus s'appuyer sur Google Play Protect, qui est une couche des services Google qui permet de garantir la sécurité des applications, ce qui est évidemment un enjeu crucial. Et Google brandit un peu le scénario catastrophe en disant que si on laisse cette situation perdurer et si on laisse Huawei, la Chine, développer des alternatives fortes et crédibles à Android de Google, eh ben on va s'ouvrir plus de problèmes de sécurité qu'autre chose. Tu souscris ou est-ce que tu penses que c'est juste de la bonne com?
Malheureusement, c'est vrai, en fait. Et on va être amené à en reparler dans quelques points à propos d'une autre nouvelle. Mais la façon dont ça fonctionne sur Android, c'est que la version de base, donc Android Open Source Project, est extrêmement bien sécurisée, que son code est relu par de multiples institutions, y compris des agences de renseignement, la NSA d'ailleurs.
Ah bon
tout à fait. La NSA contribue même au code d'Android à corriger plusieurs failles, en particulier, il me semble, et je suis désolé d'avance si c'est pas cette faille-là, mais il me semble bien que Heartbleed, la faille de SSL, a été corrigée dans Android par la NSA. Alors là, on dit la NSA. En vrai, il s'agit de quelques employés de la NSA, n'empêche que c'est sur leur temps de travail, avec leur adresse professionnelle, etc., etc. Donc il y a quand même un accord de principe là-dessus. Et puis on parle de la NSA parce que c'est celle qui est dans les fantasmes de tout le monde, mais enfin c'est pas la seule agence gouvernementale. Il n'y a pas que les États-Unis qui surveillent ça de près. C'est un OS libre, le développement est semi-ouvert, voilà, tout le monde est amené à y contribuer. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que ça vient aussi avec une suite de tests unitaires qui sont là pour justement vérifier que le comportement de la version d'Android qu'on est en train de compiler pour pouvoir mettre sur un smartphone, c'est bien celle à laquelle on s'attend avec les résultats auxquels on s'attend et y compris les niveaux de sécurité auxquels on s'attend. Et cette suite de tests, si on est juste en train de compiler Android Open Source Project, on peut la passer ou on peut ne pas la passer. Et en plus, c'est chiant, c'est long, et puis ça fait du bruit, parce que y a aussi les tests audio et vidéo. Hein. Bon, voilà, c'est volontaire. Mais maintenant, si on veut la licence GMS, ça n'est plus optionnel. C'est obligatoire de passer cette suite de tests, d'envoyer les résultats à Google, et eux vérifient. Et clairement, les niveaux de sécurité, c'est le premier truc qu'ils vont vérifier. Alors, c'est pas une garantie à 100% en soi que on arrive avec quelque chose de sécurisé, mais c'est une garantie à 100% que les failles que l'on connaît déjà et qu'on a déjà corrigées sont bel et bien corrigées dans la version qui est shippée par le constructeur ou l'éditeur logiciel. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que effectivement, une fois qu'on a les licences GMS, on a les Google Play Services, incluant donc Google Play Protect avec les niveaux les privilèges administrateurs qui lui permettent de désinstaller des applications dont il reconnaîtrait la signature comme étant celle d'une application malicieuse. Et ce, peu importe la source d'installation des applications. Donc si une application malicieuse qui volerait par exemple les contacts téléphoniques d'un utilisateur se répandait y compris en dehors du Play Store, Google Play Protect permet de supprimer à distance, en masse, sur tous les téléphones concernés, cette application. Donc clairement, ne pas avoir la licence GMS, c'est se passer de deux niveaux très importants de sécurité et donc faire confiance entièrement au constructeur et à l'éditeur de l'OS sur son téléphone. C'est pas un problème en soi, mais c'est une question de confiance. Je disais pas un problème en soi parce que c'est typiquement le cas d'Apple et iOS. Hein. Ils font tout de leur côté. et on est raisonnablement en droit d'attendre un niveau de sécurité et de respect de la vie privée correct. Mais clairement, le discours de Google, c'est puisque tu accuses Huawei de faire de l'espionnage, laisse-moi te dire que en leur coupant l'herbe sous le pied au niveau de l'utilisation des technologies américaines, y compris nos licences, eh ben nous, on n'a plus aucun moyen de garantir que ce qu'ils font, c'est legit et l'utilisateur est protégé.
Ouais, ouais, je comprends ton point. Et effectivement, Huawei a déjà répété et à juste titre. J'ai trouvé d'ailleurs encore une fois, je l'ai dit dans un précédent épisode, mais j'ai trouvé Huawei assez bon dans leur com de manière générale par rapport à cette crise. On peut toujours faire mieux, mais ils ont été plutôt bons sur plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'ils en ont pas rajouté cette histoire de manœuvre, de communication vis-à-vis des grands groupes américains. C'est plus la Chine évidemment qui le porte, mais Huawei est plutôt bon là-dessus, et ils ont expliqué, ils ont déjà détaillé à quel point Android était un sujet dans lequel ils investissaient et dans lequel ils avaient une part importante de leur énergie pour son évolution qui était investie. Donc je crois que ça le montre aussi là. Alors tu faisais référence à des news qu'on va relayer. Alors du coup, je les ai un petit peu rapprochés dans notre conducteur pour qu'on essaye d'y trouver encore plus de fil conducteur. C'est le fait qu'on a trois petites news deux news qui vont se chevaucher. C'est un malware qui était préinstallé sur Android en 2017. Et ça, il y a une communication assez récente qui a démontré, Google a en gros confirmé le fait que c'était bien véridique, qu'en juillet 2017, il y avait un cheval de Troie qui était inséré dans Android, dans la version diffusée pour Android. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui montre à quel point la chaîne dans laquelle est inscrite la production d'un smartphone peut amener à intégrer des acteurs qui peuvent eux-mêmes intégrer des éléments malveillants à tout niveau, et donc la surveillance un peu coopérative et évidemment de bon aloi. Donc ça tendrait aussi encore à appuyer ce que tu viens de détailler. Et puis, est-ce que tu voulais aussi relayer cette problématique de détournement de trafic mobile qui est parti par la Chine, ou est-ce que ça c'est plus un problème réseau?
Alors, je vais d'abord revenir sur ce cheval de Troie, et je vais lâcher quelques exclus, et puis tant pis si on me tape sur les doigts. La façon dont on obtient les licences Google Mobile Services, elle pose problème aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais c'était le cas il y a 3 ans. Donc, mettons que vous êtes monsieur ou madame Martin et que vous souhaitez lancer votre propre marque de téléphone. Vous avez le hardware, félicitations. Vous avez de quoi faire réaliser le premier moule, les premiers prototypes, etc. Très bien, parfait. Il vous manque le logiciel, vous téléchargez Android Open Source Project. Vous le compilez, ça fonctionne sur votre téléphone, incroyable. Vous passez les tests unitaires, donc la compatibility test suite d'Android, CTS, super, excellent. Les résultats sont très bons, à part quelques bugs qui viennent d'app ironiquement signés de la main de Google. C'est pas grave, vous passez les tests de façon déjà bien plus élevée que certains anciens téléphones de Google. Bravo, vous êtes un chef. Maintenant, vous voulez Google Play. Donc vous téléphonez à Google. Personne ne téléphone à Google. Vous envoyez un mail à Google. Non, personne n'envoie un mail à Google. Vous envoyez un fax, un courrier, comment vous faites? Ouais. Un télégramme peut-être. Et donc ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de point d'entrée officiel pour un petit acteur. Évidemment, les gros, les Samsung, les Microsoft... puisqu'ils ont été aussi un jour concernés par l'univers Android, les LG, les Nokia de ce monde, eux, ils savent tous qui ils doivent appeler, à qui il faut envoyer les résultats des tests, etc. Mais monsieur ou madame Martin ne sait pas. Finalement, à force de demander et d'harceler votre réseau de contacts, vous obtenez un contact chez Google qui vous dit « Ah, c'est pas moi, c'est machin », et puis bon, bref, bon an, mal an, vous obtenez une adresse courriel que vous contactez. Et là, la réponse qu'on va vous donner, c'est « Mais vous vendez combien de téléphones ?»
Ah.
Zéro, puisque j'ai pas la licence GMS. Ok, mais nous, on discute qu'avec les gens qui font plus de 10 000 téléphones. Ouais. D'accord, mais en attendant, je fais quoi? Vous passez sous le radar. Bah ça, c'est pas écrit explicitement dans le courriel, évidemment.
Mmh.
Mais donc, les services Google, vous les récupérez sur les internets, vous les incluez dans votre home, et puis vous commencez à shipper auprès des utilisateurs. Oui, il y a Google Play Protect, mais il n'y a pas personne qui a vérifié si vous passez vos compatibility test suite. Et donc, au bout d'un moment, vous êtes suffisamment gros, et là, Google, plutôt que de vous dire félicitations, vous êtes suffisamment gros pour nous discuter, il vous tombe dessus en mode oh, vous shippez nos trucs sans avoir le droit, bref, un cauchemar. Tout ça pour dire
C'est
que.
caricatural ou c'est
Non, malheureusement, c'est vrai.
Ah, d'accord.
Tout ça pour dire que ces téléphones qui ont été infectés par une application qui avait les pouvoirs d'installer n'importe quelle application à distance. Ça concerne que des petites marques. Et ça concerne que des petites marques. Pourquoi? Parce que c'est que des marques qui ont voulu, j'imagine, de bonne foi, collaborer avec Google et à qui on leur a rien répondu ou on leur a répondu pas pour le moment. Et donc, c'est malheureusement pas étonnant. La façon dont ça s'est passé, hein, pour donner un petit peu le détail, c'est que les entreprises qui réalisaient la version d'Android pour les constructeurs s'est fait pirater. Et donc, dans la ROM qui était fournie par cette entreprise, il y a cette application avec les droits administrateurs qui a été installée sans que personne ne s'en rende compte. En tout cas, j'espère, sans que personne ne s'en rende compte. Et clairement, côté Google, on n'a jamais pu s'en rendre compte au moment où ces téléphones ont été shippés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui regarde pour ce volume de téléphones-là.
C'est déroutant. Alors, les marques qui sont concernées, là, c'est, enfin, il y en a quelques-unes de citées. Moi, j'en connaissais qu'une, hein, pour le coup, qui est Dougie, mais bon, a priori, il y a d'autres marques, mais qui sont assez confidentielles. Et si j'ai bien compris, le point névralgique, il est dans le fait que ces constructeurs se fournissent des Google Play Services un peu là où ils le trouvent sur Internet, et que quand on se fournit, comme à chaque fois, sur des contenus, des applications, des ressources un peu où on peut sur Internet, eh ben, on n'a pas forcément les versions authentiques. On est d'accord, c'est un peu
Mais
un des...
soit ça, soit l'entreprise qui a édité la version d'Android faite pour ces marques-là, elle s'est fait pirater et cette application s'est fait inclure. Et auquel cas, ça aurait pu arriver même s'ils n'incluaient pas les Google Play Services.
Bon, on va revenir juste après en lien direct avec nos histoires de Chine, avec ce détournement de trafic. On va y revenir juste avant quelques mots, hein, toujours dans le cœur de ce sujet de Huawei, avec une prise de position de Foxconn qui arrange bien Apple, qui dit donc Foxconn qui est l'assembleur chinois qui construit l'iPhone, qui l'assemble plutôt, qui dit que l'iPhone qui est destiné au marché américain pourrait très bien intégralement être assemblé hors de Chine. Donc ça, c'est un point qui évidemment est assez impressionnant, c'est de se rendre compte que Foxconn n'est pas qu'une petite usine perdue au fin fond de la Chine, mais une entreprise énorme et qui a des environnements de production un petit peu partout, notamment beaucoup en Inde. Et d'ailleurs, c'est en particulier ces lignes de production indiennes qui sont destiné aujourd'hui à produire des iPhones pour le marché indien, pour éviter les problèmes d'importation qu'il peut y avoir justement en Inde, qui pourraient être mises à contribution. Donc ça reste des sujets sur lesquels il peut y avoir des adaptations, même si c'est pas sans conséquences. Et puis une petite info et un chiffre qui fait assez froid dans le dos, qui est assez démentiel au niveau du montant. Le chiffrage de ce que pourrait coûter le fait de bannir les entreprises concernées par le décret de Donald Trump, donc notamment Huawei, mais aussi ZTE et compagnie, ça pourrait coûter la bagatelle de 55 milliards d'euros d'après des études qui ont pu être faites par le groupement industriel de la GSMA. Ça coûterait donc 55 milliards d'euros aux opérateurs télécoms européens, donc pour s'adapter, mais en plus, ça générerait aussi un retard de 18 mois sur l'arrivée de la 5G. Et ce retard qui lui-même occasionnerait un manque à gagner de 45 milliards d'euros d'ici 2024. On est là sur les conséquences hyper concrètes, mais à très grande échelle, de ce qui pourrait arriver si tout ça se confirme. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est hyper clé à suivre, c'est qu'il y a des enjeux sur le développement de ces technos qui est clé, quoi.
Et ça, c'est sans inclure le coût de l'incertitude.
Oui, c'est-à-dire que ça, c'est les données. C'est comme quand on fait des travaux, quand on prévoit des travaux pour une maison. C'est-à-dire qu'il y a le budget théorique et on sait à chaque fois que la réalité dépasse de très très loin ce qui était prévu. Donc, effectivement, ça, c'est la partie théorique. On va enchaîner effectivement avec cet aspect, alors qui est un peu moins du coup matériel, software, mais qui touche aussi à des aspects réseau, mais qui est pas sans être en lien avec les sujets qu'on aborde par rapport à la Chine. C'est ce détournement. Alors, moi, j'avoue que je l'ai un petit peu moins suivi, mais tu vas pouvoir nous redétailler ça, Pierre-Olivier, selon les infos que tu as. Un détournement d'une partie de nos données, notamment si on est abonné chez Bouygues Télécom et chez SFR en France, de données qui auraient pu transiter par la Chine. Alors que c'est pas du tout habituel que ça que ce soit détourné aussi longtemps.
Tout à fait. Donc, c'est à peu près 2 heures hein, de trafic data mobile qui a circulé à travers le réseau de China Telecom au lieu de circuler à travers d'autres réseaux, eux plus probablement situés en Europe, même si ce n'est pas obligatoire pour autant. Je suis pas un spécialiste, ou en tout cas, j'en ai vraiment pas fait beaucoup de réseaux
C'est un monde à part
télécom.
entière. Ouais.
Oui, tout à fait. C'est assez différent des protocoles réseau qu'on a dans l'univers de l'informatique de bureau. Et de ce que j'ai pu lire un peu partout, il s'agit véritablement d'une erreur, on appelle ça une fuite d'adresse de routage, qui
Oups.
normalement est rapidement corrigée. Encore faut-il, pour le corriger, avoir implémenté un certain nombre de fonctionnalités qui sont récentes, mais pas non plus de la semaine dernière, qui permettent de corriger rapidement et de renvoyer le trafic à bon port. Et il se trouve que China Telecom n'a toujours pas implémenté ces règles qui permettent de corriger ces bugs qui, semble-t-il, je parle encore au conditionnel, arrivent assez régulièrement et peuvent emmener les datas un peu partout, hein, pas nécessairement en Chine. Évidemment, ce qui est problématique, c'est ça arrive dans un contexte déjà extrêmement tendu, et la question se pose de savoir est-ce que China Telecom a volontairement retardé l'implémentation de ces corrections de configuration. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils s'en foutent, ils ont une plus grosse infra que tout le monde, et donc pour eux c'est anecdotique et c'est clairement pas prioritaire de fixer ça, puisque finalement c'est une correction qu'on fait pour les autres, hein, pas pour soi, sauf quand on est un petit opérateur et que là quand tout d'un coup on se prend l'inverse, c'est-à-dire le trafic de la Chine. Bon, là c'est compliqué, mais quand on est la Chine et qu'on prend le trafic de 2 opérateurs en Europe occidentale, c'est pas plus que ça un enjeu. Voilà, il y a toutes ces questions qu'on est en droit de se poser, et aussi celle du budget, hein, tout simplement, parce que on sait un peu comment fonctionnent les entreprises qui sont hybrides, privées, publiques. Il n'y a pas toujours, forcément, même si les apparences sont celles d'une entreprise ultra moderne, parfois bah, on est en train de bricoler avec du duct tape un peu partout. Donc ça fait partie des possibilités, tout est ouvert. En tout cas, c'est clair que ça fait vraiment pas propre pour l'image de la Chine en ce moment.
Ouais, puis c'est symptomatique parce que on voit à quel point cette histoire, cette espèce de chronique autour des mouvements américains et chinois dans le monde de la tech souligne à quel point on peut se plaindre d'effectivement d'espionnage. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a probablement des choses, il faut pas être naïf d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, mais ça marche quand même plutôt pas mal quand tout le monde se tient main dans la main, surtout quand on parle de réseau, de télécommunications, quand on parle de production industrielle, de choses qui sont aussi répandues aujourd'hui que les smartphones. Et ça met en lumière les environnements un petit peu conflictuels comme ça, à quel point tout peut basculer dans un autre environnement. Et
Exact.
effectivement, 2 heures de détournement de trafic, si ça se trouve, il y en a eu plein d'autres qui n'ont pas trop posé de problème, mais le contexte amène à encore un petit peu plus de vigilance, quoi.
Exact. Il y en a régulièrement. Après, ça fait aussi écho, je voulais le mentionner, j'ai oublié, à un autre événement qui s'était passé il y a quelques années, où plusieurs heures du trafic Internet, cette fois, avait été détourné par la Chine, et pour le coup, c'était volontaire, et on ne sait pas ce qui est devenu, ce que sont devenues ces données. Ont-elles été enregistrées? Est-ce que c'était simplement un test de scalabilité d'infrastructure pour voir qu'est-ce que les infrastructures chinoises étaient capables de prendre? Mais en gros, à l'époque, c'était 30% d'Internet. Ah oui, c'était pas plusieurs heures, pardon, c'était 15 minutes. Voilà, à l'époque, c'était quelque chose de volontaire. Donc forcément, là, de nouveau, on serait bien en proie à une petite parano.
Ce qui montre aussi à quel point les fonctionnements technologiques, au même titre que tous les fonctionnements politiques des échanges des pays, sont basés beaucoup sur la confiance. Et on retrouve vraiment, il y a plein de parallèles à faire avec les périodes autour de la guerre froide, de ce qui pouvait se passer entre les États-Unis et la Russie à l'époque. Mais on voit à quel point tout ce qui nous paraît hyper bien encadré et formaté repose quand même beaucoup sur la confiance. Et quand la confiance est rompue, il y a évidemment des symptômes qui sont assez effrayants. Il faut très très vite, à mon avis, retravailler sur des mécaniques de confiance. Ça aide pas le climat ambiant, mais il va falloir parvenir à ça. On enchaîne avec d'autres petits problèmes de Google. Le premier refait écho à ces plateformes de distribution d'applications. Il s'appelle Aptoide. Alors là, on n'est pas du tout en Chine. On est au Portugal. C'est Aptoide, un store alternatif. Donc vous le savez, hein, sur iOS, sur l'iPhone, vous n'avez pas la possibilité, de manière officielle en tout cas, mais d'utiliser autre chose que le magasin d'applications d'Apple. Dans le cas d'Android, évidemment, c'est différent, même si le Google Play Store à pignon sur rue est un vrai fer de lance parce qu'il est très étroitement lié au développement de Android porté par Google. Donc évidemment, il a beaucoup d'écho et une forte résonance, mais il y a quand même d'autres stores d'applications comme Aptoide. Et Aptoide s'est fait classer dans la liste noire, cette fois-ci non pas de Donald Trump, mais des mesures de sécurité qui sont intégrées justement dans Android par Google, en considérant qu'Aptoide n'est pas sûr et que ça fait en gros partie de quelque chose qui est de l'ordre du malware et qu'il vaut mieux. Alors déjà, il faut le signaler, empêcher qu'il fonctionne et inciter les utilisateurs à le supprimer. Aptoide a mis en ligne un site internet qui s'appelle Google Play Fair. Donc en gros, ouais, Google, il est temps de jouer franc jeu et de jouer avec les bonnes règles du jeu. Et il souligne à quel point, non, leur plateforme d'application n'est pas exempte de sécurité parce qu'ils ont mis en place des contrôles, des mesures et qu'ils font les choses sérieusement. Alors, c'est intéressant justement d'avoir là aussi ton point de vue, Pierre-Olivier, sur l'expertise que tu as sur l'univers Android. Est-ce qu'on peut faire confiance à Aptoide sur la sécurité des applications qu'on y trouve? Et est-ce que Google abuse pas un petit peu quand même en les considérant comme étant des stores dangereux, malveillants?
Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à Aptoide? Globalement, oui. Est-ce qu'on peut leur faire confiance sur la sécurité? Je pense pas qu'ils aient les outils, mais normalement, c'est le rôle de Google Play Protect, donc ça tombe bien, ouais, ou mal, selon quel acteur on est dans l'histoire. Mais Aptoide, c'est quand même un store assez sérieux. Il y a des stores qui sont beaucoup plus, qui ont un côté beaucoup plus sombre, où on retrouve gratuitement des applications qui seraient payantes ou des choses comme ça. Je fais une petite parenthèse. D'ailleurs, si vous regardez Aptoide, vous serez tenté d'arriver à la conclusion que justement, la plupart des applications sont piratées puisqu'elles sont proposées gratuitement. En réalité, il s'agit bien des applications officielles qui sont normalement, et ça c'est Aptoide qui le vérifie, bien publiées par le vrai éditeur. Et la raison pour laquelle elles sont classées gratuites, c'est parce que l'éditeur a mis en place un fonctionnement de licence où on paye l'application sur leur site web et non pas sur Aptoide. Voilà. Mmh. Donc voilà pour la parenthèse, mais tout ça pour dire qu'Aptoide, on peut faire confiance pour se dire que les applications viennent bien de l'éditeur. Elles ne sont pas passées dans d'autres mains qui auraient rajouté du code malicieux ou d'autres choses, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres stores. Le truc, c'est que l'une des promesses d'Android à sa création, c'était que toutes les applications sont égales en droit. Ça, ça veut dire que Google Play, le magasin d'applications, n'a pas plus de droits qu'un autre de figurer sur le téléphone, et que c'est un choix de l'utilisateur et évidemment du constructeur, hein, puisqu'en vrai, l'utilisateur n'a pas tellement de choix, et que il n'y a pas de raison que Aptoide donc ne cohabite pas avec Google Play ou ne le remplace pas pour certains constructeurs qui trouveraient que c'est plus intéressant, au hasard, Huawei, hein, par exemple. Donc clairement, enfin, à mes yeux, moi, y a effectivement un vrai problème d'abus de position, puisque ce que Play Protect fait, c'est de dire peut-être cette application permet d'installer des applications malicieuses. Mais là, on est vraiment dans la dénonciation sans preuve. Et c'est gênant. Et sachant que Google a forcément des stats de combien d'applications avec Google Play Protect ils ont dû désinstaller parce que malicieuses qui auraient été installées par Aptoide. Donc, si c'est secure ou pas, ils le savent, puis ils sont pas capables de le dire, donc probablement ils n'ont pas particulièrement de raison de déconseiller l'utilisation d'Aptoide. Et on est beaucoup plus dans quelque chose de commercial que purement technique.
Bon, du coup, Don't Be Evil ne s'applique pas trop dans cette histoire. On sent bien qu'il y a des mouvements commerciaux. D'ailleurs, ça me fait penser cette histoire aux dernières prises de position. Je pense que tu les as suivies, Pierre-Olivier, et même un fanboy converti comme moi ne peut pas rester indifférent à ce type de propos. Mais Apple qui se défend des attaques, notamment de Spotify vis-à-vis de la présence d'Apple Music et du fait qu'ils ne jouent pas dans les mêmes règles, en disant que si, enfin, en gros, ils ont pas un monopole d'applications, puisque les développeurs peuvent aussi proposer leurs applications sur Android. Et ils parlent du Google Play Store comme étant une alternative à l'App Store, ce que je trouve un petit peu gonflé de leur part.
Tout à fait. Ça ne tiendra jamais en cours, hein.
Ça ne tiendra jamais en cours, ni même aux yeux des consommateurs, je pense. Autre et peut-être presque dernier problème que peut avoir Google en ce moment, ce sont les problèmes de modération. Alors là, on touche plus à l'univers réseau, on touche plus à l'univers du matériel, du système d'exploitation, qui sont presque des sujets philosophiquement simples par rapport à ce à quoi ils sont confrontés avec YouTube, parce que YouTube est toujours la cible de critiques justifiées, je pense, de problèmes de qualité d'échange, notamment suite à un problème qui a été l'objet en gros d'un conflit entre deux youtubeurs, dont l'un qui se faisait purement et simplement insulter par un autre, ce qui s'apparente au final par du harcèlement puisqu'il y a multiplication de vidéos, mais c'est justement tout le problème, c'est les règles qui ne permettent pas bien de définir à partir de quel moment est-ce que c'est, en tout cas de la part de Google, c'est pas simple, à partir de quel moment est-ce que c'est du harcèlement, à partir de quel moment est-ce que c'est de la libre expression d'opinion, et du coup YouTube se retrouve toujours dans un environnement où les youtubeurs qui sont la cible de harcèlement sont un petit peu pris entre deux feux, soit ils supportent, si tant est qu'on puisse le supporter, le harcèlement qui est fait de leur part, de la part d'autres youtubeurs et de leur communauté, qui peuvent être hyper agressives, hein. On a des cas où il y a carrément de la vente de t-shirts qui est mise en avant via YouTube et que YouTube laisse faire de propos racistes ou de propos homophobes. Donc soit la victime en gros serre les dents et laisse faire les choses, ce qui est complètement insupportable à concevoir, soit elle dénonce les problèmes. Et le problème, c'est que YouTube peut réagir parfois en bloquant ou en démonétisant les chaînes qui sont à l'origine de ces harcèlements, mais les communautés vont réagir auprès de la victime pour montrer à quel point ils trouvent ça anormal que la monétisation soit retirée ou que la chaîne soit évidemment retirée. Et donc, ils se prennent des torrents de vomi et ils se font eux-mêmes descendre leurs propres vidéos. Il y a un vrai problème qui est là, pour le coup, de l'ordre, par certains aspects, de l'éthique, mais aussi de la philosophie, c'est-à-dire jusqu'où va la modération, jusqu'où va la censure. On sait aussi que la crainte de la part de YouTube, c'est de ne pas trop masqué de contenu qui pourrait être offensant, parce que il y a aussi Donald Trump qui est derrière et qui critique beaucoup ces plateformes en disant que justement ils sont trop véhéments à l'encontre de positions de type conservateur, enfin de type républicain en tout cas. Et donc, ça paraît être le problème un peu insoluble. Une des réflexions qui émergent, et notamment qui était relayée dans l'article du Monde, là, que j'ai mis dans les notes de l'émission, c'est que ils n'ont pas tant un problème de modération qu'un problème d'amplification. Et c'est vrai que un des gros soucis qu'il y a, et on l'a déjà dit, hein, c'est le travail qui est fait autour de l'algorithme, de la viralité, de la mise en avant des contenus. Plutôt que sur la modération, il y a aussi d'excellents sujets, des sujets qui sont plutôt excellemment bien traités. Par exemple, c'est vrai que les vidéos de l'État islamique restent pas facilement consultables sur YouTube, et on se dit qu'il y a, alors ça laisse peut-être moins sujet à arbitrage ou à interprétation, mais on sait qu'il y a la possibilité d'intervenir de manière efficace dans la modération, qu'il y a toute l'énergie qui n'est pas forcément mise en œuvre, mais qui a des vrais problèmes d'amplification. Est-ce que tu regardes un petit peu, toi aussi, les problèmes que subit ou que vit plutôt YouTube au sujet de la qualité du contenu qui peut être en ligne ?
En fait, c'est vraiment très... je pense que la partie de l'article du Monde que tu cites, la clé du problème, elle est vraiment là. Ils ont raison. Un problème d'amplification plus que de modération. Puisque finalement, dans le débat liberté d'expression versus harcèlement, le cas de figure qu'on a réellement, c'est deux habitués du PMU, mais qui sont jamais en même temps au PMU et qui sont constamment en train de bitcher l'un sur l'autre. C'est donc c'est pas du harcèlement parce qu'ils se croisent pas. Il y en a pas un qui va sonner chez l'autre. Il y en a pas un qui lui téléphone. Ils se croisent pas. Ils vivent dans deux univers du même PMU. Complètement différent. Le problème, c'est que tous les autres habitués du PMU, eux, ben, ils disent, donc ceux qui sont plus pour Gisèle, ben, ils disent à Martin, t'es vraiment un gros con, c'est Gisèle qui l'a dit, et inversement. Le truc, c'est que dans l'univers du PMU où il y a 10 habitués, c'est pas tellement un problème parce que ceux qui perpétuent le harcèlement, donc ce sont les fans de Gisèle, et c'est facile de les trouver et c'est facile de les dénoncer et de faire appliquer la justice. Dans le cas de YouTube, le PMU, il fait plusieurs millions de personnes et c'est beaucoup plus difficile de les tracer et c'est une tâche impossible à réaliser pour une personne seule et on va pas constituer une entreprise hein, juste pour aller identifier les fans de la communauté de Gisèle et les traduire en justice. Donc ça, c'est vraiment impossible. C'est pour ça que ça nécessite une intervention de la plateforme, du tenancier du PMU. Pour le coup, si le PMU YouTube il a quelques problèmes, il pourrait s'inspirer du tenancier d'un autre PMU, hein, qui est celui de Twitch, qui a eu le même genre de problématique et qui a été plutôt pas trop mauvais. Alors, non pas les solutionner, hein. L'herbe est pas incroyablement plus verte chez le voisin, surtout il n'y a pas beaucoup d'herbe dans les PMU, mais où il y a eu quand même d'énormes améliorations. On se souvient qu'il y avait, il y a encore, mais dans un nombre beaucoup plus réduit, des problèmes de swatting. Donc c'est là, on est dans un niveau assez hardcore du harcèlement parce que il peut y avoir des blessés, voire des morts. Twitch a réussi à faire descendre ce phénomène à un niveau aujourd'hui anecdotique. On en parle encore, ça existe encore, mais c'est quand même beaucoup plus calme côté PMU Twitch que côté PMU YouTube aujourd'hui.
C'est assez fou parce que donc je faisais référence hein, notamment le sujet qui a un peu défrayé la chronique dans ce domaine-là, c'est le journaliste Carlos Mazza qui a fait part du harcèlement dont il était la cible par Steven Crowder qui c'est des audiences de fou hein, qu'ils ont, c'est des millions d'abonnés et c'est ouvertement homophobe. Et ce qui est assez dingue, c'est de voir que YouTube met en place des nouvelles règles de modération pour bannir en gros le contenu nazi des suprémacistes blancs. Et alors, ce qui est assez fou, c'est qu'en plus, on peut se dire, non, mais vous aviez vraiment besoin de revoir vos règles pour bannir ce genre de truc. Non, mais au secours. Et en même temps, on se rend compte que les actions qui sont menées vont jusqu'à supprimer des contenus pour le coup légitimes, à vocation historique. Et il y a même des retraits de visibilité de vidéos qui portent vraiment légitimement une information sur le plan historique de sujets qui, évidemment, sont douloureux, sensibles, mais qui ne prêtent pas à être retirés non plus. Donc, ils sont en train de s'embrouiller, à mon sens, dans un problème qui, plus il va durer, plus il va être insoluble, et effectivement, il va y avoir besoin de trouver et de nous montrer leur capacité de génie pour vraiment assainir tout ça. Et tu as raison de citer Twitch qui a fait des efforts là-dessus, même si c'est pas parfait.
Et là encore, sur la problématique non plus du harcèlement, mais des sujets qui sont abordés dans les vidéos et de leur portée, il y a un autre tenancier de PMU auquel il pourrait s'inspirer, c'est le vrai tenancier du PMU, celui qui fait aussi kiosque à journaux, parce que si on prend pour exemple la législation française, tous les imprimés officiels qui sont enregistrés je sais plus quoi, des trucs, des publications, enfin bref, les journaux, les magazines, sont obligés d'être vendus en kiosque. Ça veut pas dire que le kiosquier, il est obligé de le mettre de l'avant.
Ouais.
Donc, en l'occurrence, notre tenancier de PMU en France, il supprime pas les publications. Simplement, il est pas trop con en général, il met pas les trucs débiles de l'avant. Ça serait probablement plus simple pour YouTube de pas mettre le doigt dans l'engrenage de la suppression, d'avoir un peu de R&D sur un algo beaucoup plus fin pour éviter de mettre de l'avant les vidéos qui posent problème, sans pour autant risquer de supprimer les vidéos qui ne posent pas de problème. Parce qu'une fois que c'est re-référencer une vidéo, c'est facile, mais on peut pas re-uploader. En tout cas, YouTube ne peut pas réuploader ce qui a été supprimé. On est dans quelque chose de définitif, de destructeur. Donc voilà, il y a s'inspirer du PMU, c'est peut-être la leçon à apprendre pour YouTube.
Ouais, revenir aux fondamentaux dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, c'est peut-être là aussi où ils peuvent s'inspirer. Alors, on suivra de toute façon l'actu de Google, mais qui risque aussi d'être embêté à un autre niveau. Mais là, pour le coup, au même titre qu'Apple, Amazon et Facebook, pour notamment une démarche qui est en train de se mettre en place aux États-Unis a priori, de la part de la Federal Trade Commission et le ministère de la Justice, qui appliquent les lois antitrust aux États-Unis et qui sont en train de constituer des dossiers sur ces différentes entreprises. Est-ce que tu as suivi, parce qu'évidemment, on n'a pas énormément de détails, mais il y a vraisemblablement des indicateurs qui montrent que des choses importantes pourraient se passer dans les semaines ou les mois à venir. Est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui est en train de se préparer, pour des raisons d'ailleurs différentes selon les entreprises, mais en tout cas assez importantes et marquantes. Et est-ce que tu as une idée de ce qui peut leur tomber sur le coin de la tête?
C'est assez vague pour le moment, parce que le débat est encore très... immature, c'est-à-dire que les lois antitrust, elles sont là pour protéger le libéralisme. Le libéralisme, qu'est-ce que c'est? Et là, je vais caricaturer à mort, ne me tombez pas trop dessus, c'est la libre entreprise. Et la libre entreprise, elle dépend d'un certain nombre de choses, et en particulier le fait de pouvoir accéder à un marché dans des conditions équitables de concurrence. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un monopole, ça veut dire qu'on ne peut pas se servir d'un monopole sur le secteur ferroviaire pour écraser tout le monde sur le secteur des jouets pour enfants. Je prends des exemples débiles, mais ça correspond à quelque chose, et c'est ce qui a été appliqué pour Microsoft et Internet Explorer différents autres éléments. En général, c'est plus l'Union européenne qui est beaucoup plus libérale que les États-Unis, parce que c'est pas parce qu'on est capitaliste qu'on est libéral, et inversement. Bon. Ça, c'est une toute petite parenthèse.
Les deux, ouais, souvent.
Voilà. Bref, les États-Unis, ça fait très longtemps qu'ils ont du mal à s'engager, à faire respecter le libéralisme de marché. Et là, ça revient sur le devant de la scène. Pourquoi je trouve que la discussion est immature encore pour le moment, c'est parce qu'aujourd'hui, elle est essentiellement pilotée par des enjeux sociaux, certains diront politiques, plus que par des enjeux économiques. C'est-à-dire que la plupart des voix fortes qui sont pour ou contre le morcellement, démantèlement ou l'imposition de contraventions énormes aux grandes entreprises du secteur technologique, elles le sont pour des raisons sociales. Parce que Facebook pilote les fausses nouvelles, parce que YouTube héberge des néo-nazis, parce que si, parce que ça. Mais tout ça, la loi antitrust américaine comme européenne, elle s'en fout. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est est-ce que Google peut vraiment servir de sa force de frappe sur le marché mobile pour imposer ses vues sur le web, alors que c'est pas nécessairement un sujet connexe. Etc. Donc tant qu'on est sur des discussions qui sont pas inintéressantes, hein, d'enjeux sociaux qui sont réels quand même, on n'est pas en train de discuter de l'antitrust. Et tant qu'on mélange les deux, il n'y a pas de consensus qui va émerger, il n'y aura pas de volonté du Congrès de légiférer, parce que essentiellement, il va y avoir une opposition entre les démocrates et les républicains pour des raisons politiques qui leur sont propres. Alors que lorsqu'on discute d'économie, ben là, il y a des impacts qui sont calculables, vérifiables, et qui sont un petit peu moins sujets à interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est qu'on arrive dans le niveau scientifique de la chose, hein. C'est pas le cas. Il y a quand même beaucoup de choses à, comme toujours en droit, à interpréter. Mais c'est quand même beaucoup moins sujet à polémique que lorsqu'on discute des enjeux sociaux qui, par nature, sont clivants pour des partis politiques.
Bien sûr, bien sûr. On suivra, hein, de toute façon, ce qui va se passer, parce que ça pourrait faire date dans l'histoire de la technologie, ce qui se passe là-bas aux États-Unis. On sent que l'histoire a envie de nous montrer une direction, mais on ne sait pas encore bien laquelle. En attendant, et avant de passer à la rubrique En bref, je ne peux que vous recommander de prendre quelques secondes, là, pendant que vous finissez d'écouter l'émission Tech Café, d'aller sur les magasins de podcasts et d'aller peut-être déposer des étoiles, si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, pour nous dire ce que vous pensez de l'émission et puis nous aider à remonter dans les classements. Ça peut se faire évidemment sur Apple Podcasts, ça peut se faire sur votre application de podcast favorite, ça peut aussi se faire sur Magellan. Oui, j'ose le troll, on en reparlera peut-être de Magellan tout à l'heure, cette application dont on parle beaucoup dans la sphère podcastique. Rubrique en bref, avec un petit sujet, avec quelques petites news crypto que je lâche très très rapidement. Et puis tu pourras, Pierre-Olivier, rebondir sur ce que tu souhaites. Facebook qui est en train de mettre en place sa crypto-monnaie, qui est une crypto-monnaie stable, c'est pas antinomique a priori, mais c'est ce que voudrait faire Facebook, notamment en indexant cette crypto-monnaie sur des monnaies stables et surtout en permettant à des grands acteurs qui prendraient des parts de fonctionnement au travers de nœuds du réseau de la crypto-monnaie avec des gros montants et donc afficher une forte stabilité, donc ils voudraient mettre ça en œuvre. On n'a évidemment pas encore suffisamment de détails pour qu'on puisse rentrer dans le vif du CG, mais on sait que c'est quelque chose de très crédible dans lequel s'est lancé Mark Zuckerberg, et on ne peut qu'attendre de voir ce qui va pouvoir se passer, voir si ça va vraiment le changer donne. Est-ce que c'est enfin une crypto-monnaie qui va être utilisable? On va voir. CryptoKit, qui est un élément d'iOS 13 qui a été pas forcément mis en lumière dans les annonces d'Apple, mais qui permet de faire de l'iPhone un support matériel cryptographique, donc avec un nouveau framework qui s'appelle CryptoKit. À voir si d'ailleurs c'est pas ces briques fondamentales qui ont pu être utilisées pour la nouvelle application Find My, qui est ce dispositif dans iOS et macOS qui vous permet de retrouver vos appareils quand ils sont perdus. C'est quelque chose qui avait déjà en place avant, mais qui maintenant va un petit peu plus loin, et notamment ça s'appuie sur des échanges chiffrés entre vos différents appareils, mais aussi les appareils d'autres personnes, toutes de la marque Apple, qui remonte des informations de manière chiffrée, pour la faire simple, et sur les serveurs d'Apple, centraliser un petit peu des informations de géolocalisation pour que vous puissiez retrouver où est votre appareil parce qu'il serait triangulé par le Bluetooth des autres appareils Apple, même si ce ne sont pas les vôtres. Voilà, avec des mises en place de sécurité, des clés qui changent, quelque chose d'assez bluffant. Et puis aussi, et encore plus profondément dans le sujet des crypto-monnaies, tu parlais juste avant l'enregistrement de l'émission, Pierre-Olivier, de cette enquête qui n'en finira peut-être jamais, qui vise à savoir qui est Satoshi Nakamoto, qui est le papa du Bitcoin. Et tu as vu passer quelques infos qui nous donnent une thèse supplémentaire. Je te laisse approfondir tout ou partie des sujets que je viens de lister.
Voilà, alors on est complètement dans l'univers du mystère, de l'hypothétique, et il y a rien de prouvé, mais je trouve ça quand même totalement, c'est vraiment un sujet pour eux, mais c'est assez fascinant de voir que donc la quête du créateur de Bitcoin continue, et pour le moment il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Solucci Calder Leroux qui j'imagine est congolais, hein, puisque l'illustration de l'article qu'on a mis dans les notes de l'émission, c'est sa pièce d'identité congolaise, serait donc l'inventeur du Bitcoin. Ça pose, si c'est le cas, si c'est cette personne, alors là, ça ouvre grand les portes pour un film hollywoodien, puisque cette personne est de tous les trafics et recherchée par plein de polices dans le monde. Et l'une des raisons pour lesquelles il n'aurait pas récupéré son million de Bitcoin qu'il a dans son portefeuille, c'est tout simplement parce qu'il est en prison. Il y a différents éléments, hein, qui concordent. C'est une hypothèse qui tient debout, mais qui, pour le moment, hein, reste quand même essentiellement des allégations. Hein. Il n'y a pas de preuves physiques réelles pour le moment.
Ouais, c'est génial à suivre, j'aime bien. Ça aurait pu être un bonus, tu vois. Je sais pas si t'en as prévu un, mais sinon je t'autorise à dire que c'était un bonus. Il y a Facebook qui est dans le privacy, et qui a mis fin à des services qui s'appuient sur le Graph Search, donc qui était un ensemble de fonctionnalités qui permettait de rechercher des personnes dans Facebook. Alors évidemment, quand tu te veux privacy first, tu réduis ce type de fonctionnalités, sauf que ça en embête certains, et notamment des autorités qui s'appuyaient sur le Graph Search pour retrouver des personnes et identifier des personnes. Selon certaines personnes, c'est même une catastrophe, hein, c'est même désastreux pour eux, et ils ont évidemment envie que Facebook maintienne ces services-là. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite, Pierre-Olivier, que de critiquer Facebook sur le non-respect de la vie privée, et que quand ils mettent en place des actions aussi concrètes que celles-ci, on leur reproche de ne plus avoir accès à des bases de données formidables?
Ben, ça dépend, hein, parce que bon, en vrai, Graph Search, ils l'ont retiré des mains du public, mais c'est quand même ce qui est utilisé pour afficher c'est ce qui est utilisé pour afficher les publicités ciblées, hein, donc effectivement, c'était une possibilité pour eux de se dire que plutôt que de passer en tout public, ils auraient pu dire c'est une interface à laquelle vous avez accès seulement si vous avez un contrat avec nous, puis après le contrat aurait pu être ouvert seulement aux détenteurs de l'autorité publique. Mais bon, là, ça ouvre encore plein de portes. Est-ce que la police du comté je sais pas où aux États-Unis s'en sert véritablement pour traquer des criminels, ou est-ce qu'elle s'en sert pour harceler Tati Michel parce que elle veut ouvrir un commerce dans une zone qui est zonée résidentielle, puis là ça fait chier le maire, puis voilà. Ouais. C'est extrêmement difficile. Je pense que pour Facebook, c'est quand même la solution la plus facile de dire, il y a juste nous qui l'utilisons en interne pour afficher les pubs. Il y a personne qui récupère les noms quand il fait du ciblage, et voilà.
Un des sujets qui commence vraiment à me trotter dans la tête, dans ma vision notamment de Facebook, c'est de me dire, on a trop fait en sorte de pouvoir démocratiser à tout le monde tous les outils. Moi, je me suis fait une opinion, il y a de ça pas si longtemps, alors qui est pas beaucoup partagée, mais que dans laquelle je me sens un peu plus à l'aise, c'est de me dire que des fonctionnalités comme la diffusion du live, moi, ça me choquerait pas que tout le monde n'y ait pas droit. Ok, c'est formidable d'un point de vue technologique de se dire que toi et moi et n'importe qui avons accès au live, mais finalement la plus-value n'est peut-être pas si énorme que ça au regard des risques que ça occasionne. Les tueries relayées sur les réseaux sociaux en live nous ont montré à quel point c'était peut-être aussi désastreux en termes de d'utilisation malveillante. Ça fait partie de ces fonctionnalités, le Graph Search, la diffusion en live, qui mériterait non pas d'être disponible à tout le monde, mais d'être disponible sur contrat, ce qui ne garantit pas à 100% l'absence de problème, mais ce qui, je trouve, me paraît un petit peu plus adapté. Finalement, toutes ces technologies-là sont extrêmement puissantes. Est-ce qu'on doit les mettre dans les mains de tout le monde? Moi, perso, je commence à me dire que non. Salesforce qui rachète Tableau Software. Alors, on va pas beaucoup le commenter parce que c'est pas des applications qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est un peu comme quand on regarde la WWDC d'Apple et qu'on essaye d'avoir un avis construit sur le montant du Mac Pro. Je pense qu'on est dans d'autres sphères, mais simplement pour souligner le fait que Salesforce donc investit sur cette suite applications qui sont des concurrents directs de Microsoft. Dans les grandes lignes, et désolé pour les gros raccourcis que je fais, mais surtout qui représentent pour eux leur plus grosse acquisition et qui est à la hauteur de 15,7 milliards de dollars. Alors, c'est pas du cash qui est parti, mais c'est un rachat en actions et donc qui est valorisé à hauteur de plus de 15 milliards de dollars. C'est quand même un gros move en termes d'investissement pour des noms qu'on connaît pas forcément, en tout cas dans le domaine de la tech grand public. Google Maps, très malin, le petit clin d'œil. Il faut quand même qu'on souligne les petits usages qui font toujours plaisir, surtout quand on souligne les problèmes qu'a Google. Donc Google Maps qui va vous alerter quand un taxi fera un détour pour vous faire payer plus. Et en fait, vous lancez la fonctionnalité qui vous permet d'avoir un itinéraire. Et puis si jamais Google Maps voit que l'itinéraire emprunté par votre taxi est beaucoup trop éloigné, bah, il va vous mettre une alerte. Alors c'est présenté comme étant quelque chose de l'ordre de la sécurité. C'est présenté comme étant un bouton stay safer, enfin moi je trouve ça hyper malin, et quelque part je me demande si c'est pas quelque chose que pouvaient utiliser les gens sans que ce soit aussi explicite. Est-ce que t'as vu, Pierre-Olivier, que tu peux programmer tes emails maintenant dans Gmail? Je sais pas si tu utilises Gmail.
Ouais, plus le choix. Non, c'est pas vrai, mais je considère que rien n'est à la hauteur, ouais. Malheureusement, hein, parce que je fais partie des gens toujours endeuillés par la perte de Inbox. Donc, je suis très content de voir cette fonctionnalité réapparaître. Je me faisais d'ailleurs encore la réflexion hier que tu sais, on peut se remettre un courriel à plus tard.
Oui.
Et je me disais que décidément la pop-up dans laquelle ça s'affiche sur Android, elle est aucun rapport avec l'interface graphique de Gmail, qu'ils ont vraiment juste copié-collé le code de Inbox comme des gros sales, et probablement la veille en plus hein, de la fermeture de Inbox, et je trouve ça moche, voilà.
Et les mecs, on ferme, ouais, mais ça, il fallait le reprendre quand même. Bon, vas-y, envoie le code, vas-y.
C'est exactement ça.
Ils ferment aussi Google Voyage, quoi, ou Google Trips.
Ouais, tout à fait. Ah, alors, je peux pas trop commenter, hein, je suis pas un utilisateur. Faudrait peut-être inviter Edouard Marquez, qui fait partie des endeuillés, hein, qui a beaucoup pleuré sur Twitter quand Google Trips est décédé.
Est-ce que tu crois, toi, en la viabilité d'un navigateur premium? Je dis ça, bien évidemment, parce que il y aurait une version payante du navigateur de Mozilla qui serait en cours de préparation pour sortir cette année, qui serait donc une version premium qui intégrerait notamment des services VPN avancés. Pourquoi pas? Peut-être on peut l'imaginer, un espace de stockage dans le cloud qui serait cautionné par Mozilla et qui serait payé. Alors, est-ce que ce serait quelque chose qu'il faudrait payer en one shot ou via une facture mensuelle? Est-ce que tu crois en la viabilité d'un truc aussi acquis pour l'être humain aujourd'hui, qui est la gratuité d'un navigateur?
En abonnement, ça sera 100 mois. La question ne se pose même pas. Ça me paraît tellement absurde que j'y réfléchirai tout simplement pas. Par contre, en one shot, comme tu dis, écoute, je trouve que la question, elle n'est pas si débile que ça. J'aime beaucoup Chrome et ses fonctionnalités, en particulier avec quelques extensions que je trouve essentielles, dont certaines sont payantes déjà. Donc, c'est pas comme si je payais rien dans mon navigateur non plus. Et puis, quand je vois ce que me coûte Chrome en RAM, c'est pas si débile, hein, de dépenser un petit peu plus de dollars côté software pour en dépenser un petit peu moins côté hardware.
Mais tu sais, je pense à tous ces gens qui payent. Alors moi, j'en fais pas encore partie de ceux qui payent des services VPN, mais payants. Et il y en a pas mal, hein, d'ailleurs, des offres très crédibles là-dessus. Finalement, au lieu de payer un abonnement VPN, si jamais tu payais un abonnement à Mozilla Firefox qui fait VPN, est-ce que ce serait pas un argument?
Bah voilà, je suis pas utilisateur du VPN.
Toi non plus.
Donc non, voilà.
Bon. J'en ai en backup pour les réseaux Wi-Fi douteux, mais c'est tout. Et encore, je suis pas sûr que ça me sauvegarde tant que ça. Bref, une petite minute sur l'E3. Alors, je vais pas m'attarder sur le sujet parce que ni moi, ni tu ne m'en voudras pas, Pierre-Olivier, de trahir ce qu'on a dit juste avant.
Nous sommes
tous les deux experts de consoles. On peut être consommateur occasionnel, mais on va pas être suffisamment bons observateurs pour en parler de manière qualifiée. Il y a en plus d'excellents podcasts qui en parlent, donc surtout cherchez dans votre application de podcast les émissions sur les jeux vidéo qui en parleront mieux que nous. On reviendra probablement avec Guillaume Bogjaspala sur le tech porn qu'il y a derrière les annonces ou les non-annonces d'ailleurs de ce qui pourra faire tourner les machines. Juste quelques mots très très rapidement, la prochaine PlayStation qui sera rétro-compatible PS4. Donc ne vendez pas tout de suite tous vos jeux PS4 parce que même les sauvegardes et les fonctionnalités multijoueurs PS4, PS5 seront assurées. Technologie 4K, 120 Hertz, SSD de base, mais ça on en avait déjà parlé un petit peu avec Guillaume Pogjaspala. Des annonces aussi autour de Scarlett, qui est le nom du projet de ce qui va remplacer les générations Xbox actuelles, 4 fois plus puissante que la Xbox One X, toujours impressionnant de voir les sauts de puissance qui peuvent être faits, qui intégrera aussi du SSD, confirmation de la possibilité d'utiliser un lecteur de disque, ce qui rassurera ceux qui combattent encore la dématérialisation des jeux vidéo, 120 frames par seconde 8K Ray Tracing, attention, on n'arrête plus la puissance de Microsoft là-dessus. Le service xCloud qui arrivera très vite en octobre en bêta, qui consistera d'une part certes à streamer des jeux vidéo depuis des serveurs, mais aussi à streamer les jeux depuis votre console en mobilité, donc comme le fait le PS Now. Une nouvelle manette Elite Bluetooth pour la bagatelle de $179, hyper personnalisable avec des configurations sur les retours des boutons qui convaincront, je pense, les hardcore gamers. Et puis, le début, là, de ce qui est lancé comme étant la bêta pour le Xbox Game Pass. Donc, c'est le catalogue de jeux pour PC qui paraît, ma foi, tout à fait satisfaisant pour qui consomme du temps à jouer sur son PC. Un petit mot, quand même, en parallèle avec ton amour, Pierre-Olivier, de Google, pour Google Stadia, parce que des détails ont été annoncés. Alors, Google Stadia, c'est la possibilité, avec simplement une manette et un Chromecast, de faire tourner une console qui est non pas chez vous mais qui est sur les serveurs de Google pour vous afficher le rendu des jeux vidéo et vous interagissez avec la manette. Il y a les abonnements qui ont été annoncés, la disponibilité dans pas mal de pays. Une déception aussi, et tu vas nous faire part un petit peu de ton sentiment rapide en tant que consommateur à ce sujet-là, beaucoup annonçaient ça comme le Netflix du jeu vidéo. Ce que ce n'est pas, parce que certes, il y a un accès qui peut être payant pour avoir de la 4K ou gratuit pour avoir du Full HD, mais dans tous les cas, vous avez besoin d'acheter vos jeux vidéo et non pas de les avoir inclus dans votre abonnement, même s'il y a des mécaniques d'abonnement de jeux vidéo qui pourront être intégrées à Stadia, mais à la base, ça change pas forcément la donne. Tu me dis que t'as quand même précommandé ton kit, Pierre-Olivier ?
Oui, parce que ce que tu dis, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est une offre qui est très complexe, en tout cas probablement trop complexe à mon avis.
La lisibilité pas évidente.
Ouais, exact. Parce qu'en fait, il y aura des jeux qui sont inclus dans l'abonnement Stadia, en particulier Destiny 2, Destiny 2. Et, est-ce que j'ai mentionné Destiny 2 ? Non, il y a aussi Farm Simulator 18.
Il y a Baldur's Gate 3 surtout.
Oui, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais il y a quelques jeux parmi ceux-là, certains sont inclus dans l'abonnement et donc ne seront pas à être payés. D'autres devront être payés. Donc ça se compare plus à un Shadow pour les gens qui nous suivent en Europe, c'est-à-dire l'écrasante majorité, qui est un genre de session à distance sur un PC traditionnel équipé de Windows sur lequel on paye un abonnement pour accéder à cette machine, mais par contre il faut acheter ces jeux. Donc là, on est quand même plus sur ce paradigme, avec quelques exceptions de jeux qui sont offerts avec l'abonnement, mais ça n'est que c'est un petit peu comme quand t'as un jeu des fois quand t'achètes un magazine. Bon, ça c'était il y a 15 ans, mais mais vous voyez l'idée. Donc l'offre elle est un peu complexe et puis c'est vrai que même si j'ai précommandé, on peut toujours annuler quand on veut. Ce qui est différent par rapport à Shadow, c'est que Shadow, comme je l'ai dit, c'est un écosystème qui existe déjà. C'est l'écosystème PC Windows. Versus Stadia, c'est leur propre OS qui est évidemment sûrement un Linux sauce Google, et donc les jeux ont besoin d'être compatibles ou rendus compatibles avec Stadia, et donc le catalogue est largement moins fourni. Enfin, là, ça se compare même pas, hein. On parle de plus de 10 000 jeux dans l'univers PC versus je pense moins d'une dizaine pour Stadia pour le moment. Évidemment ça va grossir, mais c'est clair que par exemple si vous êtes fan de rétro gaming, Stadia c'est pas pour vous.
C'est sûr, j'avais pas en tête effectivement cet aspect techno qui est je voudrais surtout pas dire des choses qui fâcheraient les aficionados de Linux que j'apprécie beaucoup comme plateforme, mais je sais pas si sans le montrer directement il y a eu des telles annonces autour du jeu vidéo sur une plateforme Linux qu'avec Google Stadia effectivement, de par les technologies des serveurs.
Il y a quand même Steam, hein, Steam OS.
Oui, c'est vrai, j'y pensais pas, exact. Bon, ça me montre à quel point il ne faut pas que j'approfondisse ma vertu à relier le jeu vidéo autrement que sur les aspects purement techniques. On continuera à le faire avec Guillaume Pogjaspala. Tu as vu qu'on a peut-être trouvé le successeur du Notch, Pierre-Olivier, cette encoche qui nous embête parce que on veut des écrans qui soient bord à bord et on n'a pas de possibilité d'intégrer la caméra autrement qu'en mettant une espèce de partie noire quelque part qui n'est pas celle de l'écran. Et Xiaomi a fait une petite annonce là au travers d'une prise de parole dans la presse pour expliquer que eux ils avaient réussi à intégrer la caméra frontale sous l'écran. Elle est invisible ou presque selon comment on regarde les copies d'écran. C'est assez malin la façon dont c'est fait, avec notamment la possibilité de masquer la manière dont est diffusé l'éclairage. Est-ce que tu vas sauter sur la première version du smartphone qui intégrera comme ça la caméra selfie sous l'écran, Pierre-Olivier, quel qu'en soit le prix?
Non, pas sur la première, parce que moi, je l'ai toujours su que ça arriverait. Je l'ai dit que l'encoche, on la souffrait temporairement, mais c'est quelque chose qu'on regarderait plus tard comme absolument hideux et qu'on comprendrait pas le choix qui a été fait par tant de constructeurs, y compris
évidemment
certains qui sont plutôt du comté du bon goût d'habitude. Donc, j'ai aucun doute que c'est le futur. J'ai aucun doute qu'il y aura plus jamais d'encoche d'ici quelques années, donc je vais pas me précipiter, je vais attendre de trouver chaussures à mon pied.
Ouais, c'est un mal nécessaire, on l'a toujours dit, hein, effectivement. Le Galaxy Fold revu et corrigé serait bientôt présenté. On verra. Maintenant, on n'est plus sûr de rien. Mais oui, logiquement, ça devrait arriver au même titre qu'après la pluie vient le beau temps. Mais bon, enfin, en tout cas, c'est une bonne nouvelle que ce ne soit pas un sujet complètement abandonné. Moi, c'était toujours un petit peu ma crainte, c'est de dire que ce projet tel qu'il était conçu, hein, cette première version, pourrait être abandonné. Maintenant qu'ils ont moins l'adversité de la concurrence de Huawei sous les yeux, donc peut-être qu'ils peuvent bosser plus tranquillement. On enchaîne rapidement avec les bonus pour cette émission. Alors Pierre-Olivier, est-ce que tu as un bonus à nous relayer ou est-ce que tu utilises ton joker bonus en nous ayant relayé tout à l'heure les nouvelles enquêtes autour de l'identité de Satoshi Nakamoto?
Je crois que je vais utiliser mon joker bonus.
T'es pardonné. Merci Pierre-Olivier. Alors moi, j'ai deux petites choses, donc je vais pas vous parler en bonus de Magellan, qui est cette proposition de Mathieu Gallet, ex-PDG de Radio France, pour démocratiser et surtout se faire du blé autour du podcast, parce que j'en ai déjà longuement parlé dans un autre podcast tech francophone qui s'appelle Niptech. Donc si vous ne connaissez pas Niptech et que, déjà si vous connaissez pas Niptech, allez vous y abonner et l'écouter. Et si jamais vous avez envie de savoir un petit peu quel est le fond de ma pensée sur le sujet, vous pouvez y aller. Alors c'est un peu embêtant parce que dans Niptech, on avait des avis assez concordants et qui n'étaient pas forcément ceux des autres podcasteurs. Avant de dire que je ne m'étalerai pas plus sur le sujet, est-ce que tu as suivi ce que fait Magellan, Pierre-Olivier?
Bon, moi, je connaissais pas du tout parce que je vis pas en France et que je pense pas que ça ait un écho international ni hier ni aujourd'hui et probablement pas demain non plus. J'ai vu via Twitter les réactions de beaucoup de podcasteurs. Je vais m'abstenir de commenter parce que je ne connaissais pas l'app avant de lire les réactions et donc mon avis a été biaisé par la façon dont j'ai découvert cette application.
Bon, bah écoute, très bien. Bah t'écouteras Niptech et puis t'essaieras de voir si jamais on a un avis biaisé à notre tour. Moi, j'ai vu passer un article qui s'éloigne un petit peu des sphères technologiques qu'on a l'habitude d'aborder ensemble. Est-ce que tu connais les Baby Reborn, Pierre-Olivier?
Oui.
Alors, bon, moi
j'en suis pas fier, hein, mais...
Moi j'ai découvert ça au travers d'un article qui explique très bien, c'est hyper bien écrit ce que sont que les Baby Reborn. Grosso modo, imaginez-vous que ce sont des poupées, des jouets pour à la base enfants, mais qui sont hyper réaliste et qui joue sur cet aspect extrêmement réaliste. Ils ont été mis en lumière en 2016 sur le fait qu'il y a un fait divers qui est remonté. C'est un policier qui racontait le fait qu'il avait vu des petits pieds d'un bébé dépasser sous une couverture à l'arrière d'une voiture par plus de 30 degrés. Donc enfin, je pense que comme lui, on se serait jeté sur des actions pour sortir le bébé de là ou en savoir plus. Et en fait, c'était donc une poupée ultra réaliste, donc un fameux Reborn. C'est un phénomène qui date pas tout à fait d'hier, mais qui date même des années 90, où il y a eu déjà des actions de la part de personnes qui s'amusaient à repeindre des poupées de Walmart pour les rendre plus réalistes. Et c'est devenu depuis un véritable phénomène, alors qui n'est pas arrivé dans le domaine du grand public, mais qui touche beaucoup de personnes. Et notamment des femmes et des hommes qui ont une relation hyper particulière avec ces objets, ces Reborn, et qui les dorlotent, qui les habillent, qui leur donnent à manger. Ils font même parfois des chaînes YouTube où ils montrent leur vie au quotidien, où ils s'occupent de ces bébés. Ils sont faits en céramique, et puis après il y a une sculpture en silicone et en vinyle. Évidemment, il y a un éventail hyper large de ces Reborn qui fait qu'il y a différents niveaux de qualité. Il y en a, c'est des véritables œuvres d'art, hein, évidemment. Il y a des marques qui sont extrêmement prestigieuses. Les yeux sont repeints de manière hyper détaillée, comme les poils qui sont faits avec des filaments synthétiques, de la soie, des cheveux humains. Il y a aussi les pores et les taches de rousseur de la peau qui sont détaillées. Même les vaisseaux sanguins sont repeints. Ils prennent une durée complètement invraisemblable puisque chaque Reborn nécessiterait a priori 3 jours de travail, et ça montre en tout cas à quel point il y a un souci du perfectionnement, du réalisme derrière ces objets-là. Et au départ, on n'a qu'une envie, c'est de se dire mais où est-ce qu'on va pour dépenser, parce que ça coûte très cher, de l'argent pour avoir des poupées ultra réalistes et pour passer son temps à s'occuper de bébés fictifs. Et finalement, quand on lit l'article, on a des retours qui... bah en fait nous font un petit peu mieux, je trouve, accepter ce mouvement-là. Alors, on peut pas s'empêcher d'avoir un regard de bête curieuse, hein, sur cet aspect-là, mais il y a aussi quelque chose d'assez touchant, et même dans la manière dont c'est traité, qui peut s'apparenter à une forme de poésie. Et moi je me suis retrouvé avec une forme de d'écoute et d'ouverture sur ce sujet que je ne pensais pas avoir en commençant l'article, surtout que les photos qui servent d'illustration, c'est une artiste qui s'est plongé dans ce sujet-là, qui a fait toute une collection de photos où, en gros, elle reprend des poupées Reborn en les ayant désossées et en les ayant remises sous des films plastiques transparents. Donc, ça donne un côté très, très, très bizarre. Son livre est inspiré du roman de Philippe K. Dick et qui a servi aussi d'inspiration à Blade Runner. Qui est, je recherchais le nom du bouquin, je sais pas si tu l'as sous les yeux ou si tu le connais, Pierre-Olivier. Bref, vous retrouverez ce titre dans l'article qui est dans les notes de l'émission, en tout cas. Tu connaissais, toi, Pierre-Olivier ?
Oui. Après, j'avais pas lu des articles avec un éclairage aussi ouvert. Hein.
Il est super bien fait, cet article. Donc,
j'ai lu en diagonale hein, quand j'ai vu dans les notes d'émission. C'est très, très intéressant, effectivement. Le nom du roman que tu cherchais, c'est Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?
Exactement. Merci beaucoup.
Traduction libre. Hein, j'ai le titre en anglais sous les yeux. Je ne sais pas si c'est exactement le titre en français.
Merci, Pierre-Olivier. C'est ça. C'est ce que je cherchais. Merci vraiment beaucoup d'avoir passé cette émission avec moi, Pierre-Olivier, parce que c'est d'une part toujours un plaisir, mais aussi que ton regard et ta connaissance de l'univers de Google et d'Android étaient particulièrement appropriés à ce qu'on puisse échanger ensemble sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver, Pierre-Olivier ?
Eh bien, tout simplement sur le salon de discussion de Tech Café sur Telegram.
Merci beaucoup Pierre-Olivier, moi c'est Guillaume Vendée, vous retrouvez tous les liens soit dans techcafé.fr, soit sur mon site guillaumevendée.fr, et bien entendu, vous me retrouvez dès la semaine prochaine, je pense qu'on va arriver à faire un petit récap un peu plus détaillé de l'E3, grâce à la présence de Guillaume Poggiaspala, qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre fidélité, à très bientôt pour un prochain épisode, ciao à toutes et à tous, ciao.